I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Alors, est-ce que je peux vous demander ce que vous faites dans la vie?
Je vous en prie.
Aujourd'hui, c'est à moi de vous le dire.
Au commencement était l'action.
Continuez à inventer. Je sais pas ce qui...
Selling a little? Or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Je vous attends, je sais pas ce qui va se passer, mais on peut pas tout piloter. Vivez-le à fond.
La reprise d'études, ça peut être aussi la solution pour sortir d'une situation où on n'est pas confortable dans tous les sens du terme et que c'est aussi une forme de liberté qu'on s'accorde. Reprendre ses études, c'est aussi une façon de reprendre sa vie en main.
Je suis Sarah Crosetti et vous écoutez La Bascule. Ici, on s'invite dans l'intimité d'hommes et de femmes au parcours inspirant et singulier. On discute de ce qui les fait vibrer, des moments clés de leur existence où ils ont basculé vers d'autres horizons que ceux vers lesquels on les avait orientés jusque-là. Écoutez leurs témoignages pour que cela vous donne à votre tour l'envie de basculer. Aujourd'hui, je donne la parole à Isabelle Delorme, chercheuse à Sciences Po, experte des sujets de reprise d'études et autrice du livre « Reprendre ses études, quelle aventure » aux éditions Anne Carrière. Isabelle a repris deux fois ses études après 40 ans, avec un mari et quatre enfants, puis à nouveau après être séparée. On parle beaucoup de l'entourage, de la confiance en soi et de toutes les nouvelles portes qui s'ouvrent lorsqu'on se donne l'opportunité de reprendre des études qui nous font vibrer, quel que soit l'âge. Belle écoute.
Bonjour Isabelle et merci pour votre présence sur ce podcast. Je suis vraiment ravie d'être là et de pouvoir vous donner la parole sur ce sujet qui est la reprise d'études, puisque c'est un sujet qui revient énormément dans les commentaires, dans les messages, etc., de personnes qui ont 40, 50 et parfois 60 ans. Donc je suis ravie de vous donner la parole parce que vous avez énormément de choses à transmettre sur ce sujet-là. Peut-être pour commencer, pour les gens qui ne vous connaissent pas encore, est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots ?
Alors d'abord, merci Sarah de m'avoir invitée, je suis ravie de vous rencontrer aussi. Me présenter en quelques mots, alors je pourrais dire que justement suite à ma reprise d'études, je suis donc docteur en histoire, je suis spécialiste en bande dessinée mémorielle, mais que j'ai donc des activités de chercheuse et d'enseignante et qui pour autant sont totalement à la marge de mon activité actuellement, qui est d'être responsable d'une formation pour étudiants réfugiés à Sciences Po. Et c'est un poste que j'occupe en lien avec cette reprise d'études et que je n'aurais jamais occupé si je n'avais pas repris mes études.
Oui, et surtout, moi, je vous ai découvert parce que, au-delà de ça, vous aviez écrit un livre sur le sujet.
Alors, j'ai écrit un livre sur la reprise d'études, aussi sur la bande dessinée. Donc, c'est pour ça que j'étais en train de me dire, quel livre? C'est celui-là.
Oui, bah, qui est là, d'ailleurs.
J'ai écrit un livre sur la reprise d'études qui est paru en 2020, parce que ça m'a semblé vraiment important de partager, en fait, ce que j'avais appris, mes expériences et d'aider, parce que je pense que d'une manière générale, j'aime bien aider les autres. Et je me suis aussi dit, pendant cette reprise d'études, que... j'avais avancé un peu en tâtonnant sur tout un tas de sujets et que ça pouvait être bien de dire ce que j'avais appris pour aider les autres, en particulier les femmes qui, comme moi, alors moi j'ai 4 enfants, mais même, enfin, on peut reprendre ses études sans avoir d'enfants et quel que soit l'âge, mais que ça pouvait être utile. Donc voilà pourquoi j'ai écrit et je me suis amusée en fait à l'écrire. Et comme j'aime beaucoup écrire, qu'organiser une pensée mais assez familier, le livre est paru.
Oui, parce que dans le livre, on va revenir aussi là-dessus, mais vous expliquez votre parcours et comment vous avez repris vos études avec 4 enfants, justement. Est-ce que vous pourriez revenir un peu sur cette période-là qui était au début des années 2000, il me semble ?
En fait, j'ai repris mes études à 2 reprises. J'ai repris mes études la première fois. J'avais un bébé de 3 mois, un autre de à peu près de 20 mois. Et 2 enfants qui étaient encore à l'école primaire. Et ma fille aînée devait être était au collège. Donc, en fait, des enfants, ils ont 10 ans entre le plus grand et la plus grande et la plus petite, des enfants qui étaient encore des petits-enfants. Et cette année-là, c'était en 2003. Au moment de la naissance, je dis toujours que ça a été, j'ai eu un mois extraordinaire, qui était en mai 2003. D'abord parce que ma 4e enfant est née, donc j'en étais... Vraiment, c'était un grand bonheur. Ensuite, parce que j'étais affectée dans un lycée qui me plaisait beaucoup au centre de Bordeaux, où j'étais alors enseignante. Et ensuite, parce qu'au bout de 4 ans d'attente, l'éducation nationale m'a accordé ce qu'on appelait des congés formation pour reprendre mes études. Et donc, je m'y suis lancée dès septembre suivant. Donc, vous voyez, ma petite fille avait 4 mois. Et j'ai bénéficié pendant 8 mois de ce congé, puisque j'étais encore en congé maternité, en fait, quand j'ai repris mes études. Et j'ai repris mes études à ce moment-là pour passer l'agrégation d'histoire que j'ai eue à la fin de l'année. Donc ça a été ma première reprise d'études en 2003-2004. Et en 2011, j'ai décidé de reprendre à nouveau mes études parce que j'avais commencé en fait à utiliser la bande dessinée en cours. J'étais professeure d'histoire. C'est un métier que j'ai adoré, donc je n'exerce plus depuis 6 ans, mais dans lequel j'ai toujours été très heureuse. J'avais commencé, je ne sais plus exactement quand, à utiliser la bande dessinée en cours et à m'apercevoir de l'intérêt que les élèves y trouvaient. Comment est-ce qu'on pouvait faire passer un message, une connaissance historique, de façon à la fois ludique et sérieuse? Et j'ai commencé à écrire des articles sur ce sujet-là et très vite, je me suis rendu compte qu'en fait, si je n'avais pas une thèse, je ne serais pas prise au sérieux. Ça m'agaçait. Et j'habitais donc Bordeaux à ce moment-là. Je travaillais à plein temps. J'avais mes 4 enfants et je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Et j'avais 3 choix. Je me disais, je peux m'inscrire en master à Bordeaux dans une fac d'histoire classique. Je peux m'inscrire à Paris. Puisque en fait, ce qui m'intéressait, c'était justement de faire une thèse à Sciences Po, parce que j'avais une image très positive de Sciences Po, que j'ai toujours. Et donc, c'était mon rêve. Ou, 3e possibilité, j'avais entendu parler d'un master recherche sur la bande dessinée à Angoulême, puisqu'Angoulême est vraiment le lieu par excellence de la bande dessinée. C'était un master qui était unique, justement, en France et en Europe. Et c'est, je crois, quelque chose que je raconte dans le livre. J'ai pris un grand goût à la marche et à la réflexion quand on marche. Et je n'arrivais pas à trouver, à me déterminer sur quelle option choisir. Et je suis partie marcher. J'habitais en pleine ville, vraiment en plein centre de Bordeaux, dans un des 2 grands parcs de Bordeaux. Et j'ai fait je ne sais pas combien de fois le tour du parc. En pesant les 3 solutions. Et je suis ressortie du parc avec l'idée que la meilleure solution, c'était de faire un master à Angoulême. D'abord parce que ce serait spécialisé dans la bande dessinée, c'est ça qui m'intéressait avant tout. Ensuite, parce que je pouvais envisager de faire des allers-retours entre Angoulême et Bordeaux de façon facile, parce que c'est à 1 heure de train. Et c'était un excellent choix. J'ai adoré ce que j'ai fait.
Je disais dans votre livre, je crois que vous aviez écrit que reprendre ses études, c'est aussi booster sa confiance en soi. Mais c'est exactement ça, en fait.
C'est exactement ça. Et donc, j'ai été en bonne position pour postuler à Sciences Po. Et pourtant, comment dire, vous voyez, j'avais la quarantaine passée. Je suis arrivée avec un projet qui était totalement, enfin, pas du tout classique.
Moi, j'ai principalement à chaque fois trois sujets qui reviennent. Le premier, c'est celui de l'âge et de dire il y a énormément de gens qui ne se sentent pas capables parce qu'ils ont 40, 45, 50. Et donc, ils se demandent est-ce que c'est possible? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que je suis légitime de reprendre des études si j'ai 40, 50, 55 ans? C'est quoi votre réponse?
Alors, ma réponse, elle est sans ambiguïté. C'est bien sûr qu'on est légitime pour reprendre à cet âge-là et bien au-delà de 55, d'ailleurs, hein, 60, 65 ans. Faut penser que l'âge apporte aussi un certain nombre d'avantages. On se connaît mieux, on connaît ses limites, on connaît aussi. Il y a une excellente coach qui s'appelle Shin Lanzmann qui dit on connaît ses zones d'excellence en fait, ses zones de génie, je crois qu'elle dit quelque chose comme ça. Et donc on sait là où on va pouvoir être performant ou pas. On connaît ses atouts, on connaît ses faiblesses. Et ça, quand on a 20 ans, quand on a 22 ans, on les connaît beaucoup moins. Et donc, on est tout à fait légitime. Et autour de soi, moi, ce que j'ai constaté, c'était vraiment, quand j'ai annoncé que je reprenais mes études, c'était plutôt une grande bienveillance. Et mes enfants eux-mêmes, ils étaient plutôt fiers que je reprenne mes études. Je pense que c'est plus valorisant pour des enfants, par exemple, de voir leur père ou leur mère se relancer dans un projet qui les enthousiasme, plutôt d'être face à quelqu'un qui dit « j'y arriverai jamais, j'aurais dû faire ça, j'ai raté ma vie, c'est triste ». Donc, au contraire, c'est faut dire qu'on est vraiment légitime.
J'allais dire, d'ailleurs, le sujet de l'entourage aussi, il est important parce que dans les femmes qui m'écrivent, souvent, il y en a beaucoup qui disent qu'elles ne sont pas soutenues, en fait, parce que le conjoint ne comprend pas ou la conjoint trouve que ce n'est pas forcément une bonne idée. Et du coup, ça aussi, je trouve que c'est compliqué. Est-ce que vous avez des conseils sur comment gérer son entourage?
Alors, j'ai fait, à la fin de ce livre, justement, je souris, un chapitre qui s'appelle « Sur les difficultés ». Quelles difficultés on peut en faire face? Et si, justement, on n'est pas soutenu, entre autres? Ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé parce que, je ne veux pas m'étendre là-dessus, mais j'étais encore mariée quand j'ai repris mes études au moment de l'agrégation. Je pense que j'aurais aimé bénéficier d'un soutien plus important. C'est très net et je ne l'étais plus justement quand j'ai repris ma thèse. J'avais beaucoup plus de liberté par rapport à ça. Donc, on peut tout à fait ne pas avoir de soutien et le meilleur soutien qu'on puisse avoir, c'est d'abord soi-même. Et d'où l'importance de se faire confiance et de penser qu'on a les capacités et d'identifier des personnes autour de soi qui pourront vous aider dans la confiance en soi, dans le soutien matériel, avec ou sans enfant, dans le soutien psychologique aussi. Moi, je dis toujours que le soutien psychologique est très important et je pense que moi, j'y ai recours depuis très longtemps. Et c'est certainement une des choses qui m'a le plus aidée dans ma vie. Donc, c'est un ensemble de soutien qu'il faut mettre en place autour de soi pour y arriver. Il faut penser au contraire que la reprise d'études, ça peut être aussi la solution pour sortir d'une situation où on n'est pas confortable dans tous les sens du terme, que ce soit au niveau relationnel, que ce soit avec son conjoint ou sa conjointe, et que c'est aussi une forme de liberté qu'on s'accorde. Et qu'au bout de cette liberté, il peut y avoir une meilleure entente avec son entourage qui ne vous soutient pas, ou au contraire, une décision qu'on prend de se dire, en fait, je serai mieux sans la personne avec qui je vis. Et donc, reprendre ses études, c'est aussi une façon de reprendre sa vie en main. Quand justement, sont passées, quand on a 40 et quelques années, quand sont passées parfois une vingtaine d'années aux côtés de quelqu'un ou pas. Être plus âgé donne des avantages vraiment pour reprendre des études.
Et sur les sujets très pratiques, donc vous, la première fois que vous avez repris vos études, vous aviez des enfants. 4 enfants exactement. Là aussi, est-ce que vous avez des conseils? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont soit des enfants, soit parfois aussi un conjoint qui peut être en mi-temps ou alors dont elles ont un peu la charge, que ce soit logistique ou financière. Est-ce que pareil, vous avez peut-être des recommandations pour préparer au mieux une reprise d'études avec ces contraintes?
Oui, et on peut même ajouter, parce que je trouve que c'est pas juste de penser qu'aux femmes ou aux hommes qui ont des enfants, ou ceux qui sont très dévoués vis-à-vis de parents âgés,
oui,
ou
aussi,
etc. Donc, ouais. En fait, on a souvent beaucoup de contraintes dans la vie. Le meilleur conseil que je pourrais donner comme ça, spontanément, c'est de s'organiser. S'organiser, c'est réfléchir, anticiper, et peut-être prendre au début du projet qu'on a de reprise d'études, se réserver un temps tout seul, justement en milieu calme, dans la nature ou ailleurs, ou dans une bibliothèque. Enfin, bref, se réserver au départ un moment de tranquillité et de tout poser en quelque sorte sur la table. Se prendre tout simplement un crayon, un papier, voire un ordinateur. Mais je trouve que pour cette première étape de réflexion, même si ça paraît un peu curieux, revenir au papier, c'est souvent très utile. Et donc, sur un papier, tout lâcher, en quelque sorte, sur quelles sont ses envies, quels sont les projets, quelles sont les contraintes à envisager, quelles sont, etc. Tout mettre sur la table, faire un espèce de grand... je parlais aussi de cette coach qui s'appelle Vanina Gallo et qui fait quelque chose... est-ce que ça s'appelle du mind mapping? Enfin, d'essayer de représenter des idées par des figures ou par des dessins. Enfin, en tout cas, avoir une idée visuelle de ce qu'on veut faire. Et s'accorder ce premier temps de réflexion et essayer de lister, en fait, l'ensemble des enjeux, des acquis, des obstacles, des atouts. Et à partir de là, s'organiser, dresser un plan. Je pense que... l'organisation, la réflexion sur ce projet-là, c'est indispensable au départ. Et puis, il faut faire ça de façon honnête. Il faut faire ça par rapport à soi-même, sur le temps qu'on se pense prêt à mettre pour ce projet, sur les finances. Ça veut dire aussi, sauf si on n'a aucun problème d'argent, ce que je souhaite à tout le monde, avoir une idée très précise de ses finances. Et ce n'est pas toujours drôle de scoltiner un budget, de se dire alors... de combien j'aurai besoin, de combien je dispose. Ah oui, c'est que ça. réfléchir en fonction de ça. Dans le livre aussi, il y a toute une réflexion sur comment est-ce que vous pouvez trouver de l'argent pour mener à bien ce projet d'étude. Regardez justement les bourses qui existent en fonction de la situation. Il y a même, j'ai pensé au crowdfunding aussi, pourquoi pas. Et ça, j'ai vu ça dans un autre cas. L'exemple n'est pas dans le livre, mais... de quelqu'un qui voulait, c'est un très beau projet, quelqu'un qui travaillait dans la finance, que j'ai interviewé dans un autre projet de livre qui n'est pas, lui, venu, comment dire, qui n'est pas publié, et qui veut devenir guide de haute montagne. Et en fait, il est allé voir la DRH en disant, je veux reprendre cette formation de guide de haute montagne. C'est très exigeant en temps, c'est très exigeant en finance. Est-ce qu'on ne pourrait pas envisager un système où je travaille à plein temps, par exemple, pendant 8 mois de l'année, je ne travaille pas pendant 4 mois et ma rémunération, elle est lissée sur les 12 mois. Donc, en fait, dans les cas où on est un très bon élément, ce qui était le cas de ce monsieur, la DRH avait aucune envie de perdre cette personne. Parce que je crois que dans un premier temps, il est arrivé en disant « je vais partir dans un an parce que je veux faire ça ». Et que c'est la DRH qui lui a dit « écoutez, en fait, nous, on a vraiment envie de vous garder. Donc, plutôt que vous partiez, on va vous proposer un emploi du temps aménagé ». Donc, il peut y avoir tout un tas de solutions. Et l'idée, c'est d'être inventif par rapport aux solutions pour financer cette reprise d'études. Il y a évidemment la possibilité avec Pôle emploi, de financer des formations. Il y a le chômage, arrêter l'emploi dans lequel on est, être au chômage. Enfin bon, bref, il y a plein de trucs, mais ça nécessite de réfléchir.
Oui, oui, ça c'est aussi effectivement un thème qui revient très souvent. C'est comment je fais, surtout pour des études qui durent peut-être 2, 3, voire plus. Je pense notamment à tout ce qui est thérapeutique. Souvent, c'est sur plusieurs années. Tout ce qui est psychologie, naturopathie, etc., qui sont très, très demandés. C'est des études sur plusieurs années. Et effectivement, donc, il y a le financement des études et puis le financement aussi de la vie quotidienne pendant les études.
Tout à fait. Mais c'est pour ça. Et quand vous me dites ça, je réfléchis à deux personnes que je connais. Les deux étaient enseignantes de lettres, d'ailleurs. Elles ont repris leurs études en psychologie. Elles ont fait toutes les deux un master de psychologie clinique, donc elles ont repris en L1. Et donc, pendant les 4 ans, elles se sont débrouillées pour faire leur travail de prof, peut-être en diminuant un petit peu le temps, peut-être en passant à 80%, ça, je sais pas exactement. En ne suivant pas tous les cours aussi en présentiel, un peu comme ce que je vous disais. Et au bout de 4 ans, elles ont fini leur reprise d'études, elles ont obtenu ce diplôme de psychologue clinicienne et elles ont quitté l'éducation nationale, soit d'abord en disponibilité, le temps de voir si cette nouvelle activité marchait ou pas, et ensuite elles ont lâché complètement. Donc il y a vraiment la possibilité de cumuler un emploi avec une reprise d'études. Il faut simplement parfois aller voir plusieurs universités pour voir les différents horaires possibles, pour voir les différentes modalités. Ça nécessite, je me répète, ça nécessite un temps de préparation, de réflexion qui est assez long. Et je dirais que la deuxième qualité, à mes yeux, c'est extrêmement subjectif, importante à avoir dans une reprise d'études, après l'organisation, c'est la patience. C'est-à-dire, effectivement, reprendre des études, c'est long. Mais ce n'est pas parce que c'est long que ce n'est pas intéressant qu'on ne va pas se régaler au bout de... tout au long des 3 ou 4 ou 5 ans d'études.
Oui, ce que j'entends, c'est qu'une des clés, c'est aussi effectivement de faire de la superposition au maximum et de ne pas forcément lâcher 4 ans son travail, mais d'essayer au maximum de se dégager peut-être un jour par semaine, 2 jours par semaine, pour pouvoir suivre des études un peu aménagées.
Alors oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et je reviens sur l'organisation. Ça veut dire aussi se faire un planning, au moins un planning hebdomadaire, si ce n'est un planning mensuel. Dans le livre, je pousse encore un peu plus loin en disant réfléchissez à l'échelle d'une année, comment vous allez vous organiser. Si vous pouvez, c'est très bien. Mais effectivement, il faut penser à quel moment on va se dégager du temps. Est-ce que c'est une journée ou 2 journées par semaine? Est-ce que c'est pour les lèvres tôt, arriver tous les matins à travailler de 5h à 8h ou 9h, ça dépend des contraintes qu'on a, si on a des jeunes enfants qu'il faut emmener à l'école, etc. Ou si on n'a pas d'enfants, mais un travail qui débute après. Arriver à travailler tous les jours, ça peut être bien aussi. Ou alors, c'est que le week-end, il y a des gens qui sont du soir. Le fait est que ça me semble essentiel de dégager un temps précis. Après, bien sûr qu'il y a toujours des aléas, qu'on ne peut pas tout maîtriser. Mais si vous vous dites, tous les matins, je travaille 2 heures pour mon projet de formation ou pour mon projet d'études ou je travaille mes cours à ce moment-là, vous aurez gagné beaucoup de temps. Vraiment, c'est très important de planifier ce temps-là.
Oui, c'est un vrai conseil. C'est marrant que vous disiez ça parce que il y a peu de temps, j'avais partagé une vidéo en disant ça ne peut pas marcher si en fait le temps que vous octroyez pour vous, c'est le dimanche entre 23h et 23h15, quand vous avez fait tout le reste. Et qu'en fait, se mettre en priorité, c'est aussi une clé du succès.
Ah, je suis entièrement d'accord avec ça. Et je rebondis aussi sur ça. C'est-à-dire que reprendre des études, c'est se donner une chance supplémentaire à soi de réussir des choses qui vous plaisent dans votre vie. Et donc, c'est vraiment du temps pour soi. Et je sais combien c'est difficile de s'accorder du temps à soi, mais c'est indispensable. Et ce que je dis souvent, c'est plus on fait des choses qui nous plaisent, plus on a des chances d'exercer un métier qui vous plaît, et donc finalement de donner aussi aux autres parce que vous êtes, le temps que vous vous êtes donné à vous-même pour progresser sur un sujet, pour reprendre des études, si ça vous épanouit, vous allez contribuer finalement à l'épanouissement des autres, pas tout le monde bien sûr, mais parce que vous allez être en capacité de donner du temps, de donner des choses, parce que vous vous serez donné ce temps-là. Et c'est important. Je pense qu'on donne plus dans ces conditions que quelqu'un qui va rester aigri, de ne pas pouvoir avoir mené son projet qui lui tenait tant à cœur. Donc, c'est important, oui, le temps pour soi est important. Et ce n'est pas du temps perdu. Et il faut oser le prendre, ce temps pour soi. Et puis bien, et plus on est nombreux, plus réfléchir à quel moment il faut s'octroyer ce temps. Et puis, on peut parler de ça aussi. Parfois, la reprise d'études, donc ça permet de faire un travail auquel on n'avait pas pensé ou un travail plus qualifié pour lequel on est davantage payé. Et donc, ça peut être aussi, pour certains ou pour certaines, un objectif. Et ça peut stimuler dans certains cas. Si je reprends ces études, ben, je gagnerai tant de plus par mois. Ça va m'être utile. Ça sera utile à ma famille. Ça sera utile à tel ça. C'est aussi important. En fait, il faut aussi probablement identifier les objectifs. Pourquoi reprend-on ces études? Qu'est-ce qui fait que moi, j'ai envie de reprendre mes études? Et quand on a clarifié ce pourquoi on avait envie de reprendre des études, déjà là, on va voir, est-ce que ce sont des vraies raisons? Est-ce que ce sont des bonnes raisons? Si oui, ça va nous donner des ailes. Sinon, on va se dire, bah, en fait, peut-être que c'était un truc superficiel et que ce n'est pas ce projet-là dont j'ai envie et que tel autre projet serait plus adapté à ma vie maintenant.
Et sur la question de, effectivement, prendre conscience, oser affirmer son projet, etc., vous, dans votre histoire personnelle et peut-être aussi par rapport aux gens que vous avez rencontrés, est-ce que vous avez des clés pour aider les gens? Parce que j'ai beaucoup d'histoires en tête où effectivement, c'est plus une question de confiance et d'oser affirmer son envie qui est peut-être hyper originale, etc. Et du coup, souvent, c'est au-delà des freins techniques, c'est plus des freins vraiment de confiance et de savoir affirmer son idée.
Ben là, du coup, j'ai peur de me répéter parce que je dirais que pour faire ça, il faut vraiment bien s'entourer. Il faut avoir réfléchi et
d'accord,
bien s'entourer.
C'est l'entourage aussi qui aide.
L'entourage aussi ou l'entourage pas aidant qui... Enfin, il y a forcément des gens autour de vous qui vont vous aider d'une manière ou d'une autre.
Ouais.
Si on a des enfants petits, il faut s'assurer d'avoir quelqu'un qui va pouvoir les garder. Est-ce que c'est parfois une babysitter? Est-ce que c'est parfois quelqu'un dans la famille? Est-ce que c'est dans les amis? Mais qui... il faut identifier les gens autour de soi qui vont être moteurs ou qui vont être porteurs, les gens qui sont bienveillants, les gens qui ne vont pas vous dire « Ah là là, tu as une tête pas possible, tu as encore dû travailler jusqu'à pas quelle heure, ah bah, tu serais plus tranquille si tu ne faisais pas d'études. » Donc, il faut au contraire éliminer des gens qui pourraient être toxiques dans votre entourage par rapport à ce projet. Et s'entourer de personnes en qui on a confiance et ne pas hésiter à aller voir des spécialistes, à la fois, je dirais, pour le projet en lui-même, trouver les bonnes personnes et en même temps des spécialistes, par exemple, pourquoi pas consulter quelqu'un en reprise d'études dont c'est le métier, puisqu'on sait qu'il y a des conseillers d'orientation, en dehors du système scolaire, mais des conseillers privés qui connaissent très bien leur métier en général. Consulter un coach, je parlais de coach tout à l'heure, consulter un psy, tout ça sont des choses importantes ou des gens importants. Il n'y a pas besoin d'en avoir 10, je pense. Et puis évidemment, les amis, quels sont les amis sur lesquels on peut compter en cas de coup dur ou. Je pense, mais je peux me tromper. Pour moi, la reprise d'études, ça a été une démarche individuelle. Mais pourquoi pas envisager de faire ça avec quelqu'un qu'on aime beaucoup et de se soutenir à deux ou à plusieurs. Je n'ai pas d'exemple concret de ça, mais je suis sûre que c'est possible et pourquoi pas. En tout cas, ce que je peux vous dire, et justement à la suite des entretiens que j'ai menés dans ce livre, je crois que j'ai dû faire des longs entretiens de 8 personnes, ce qui est clair, c'est que pour chacun et chacune, c'était vraiment... Personne n'a regretté, et pourtant, pour chacun, chacune, c'était des années, en général, au moins des mois, si ce n'est des années d'investissement. Et d'ailleurs, toujours dans le livre, je suis désolée de citer, mais c'est parce que comme j'ai écrit il y a déjà plusieurs années, j'ai pas tous les exemples concrets en tête, mais ça se termine par les conseils des 8 personnes qui chacune donne leur meilleur conseil à ceux et celles qui veulent reprendre leurs études. Et on voit bien dans ces entretiens la joie dans cette reprise d'études. Je pense que c'est une démarche qui est très épanouissante. À partir du moment où elle a été bien choisie, qu'elle est sienne. C'est-à-dire, si quelqu'un vous dit « Non, mais je pense que tu ferais mieux de reprendre tes études pour telle ou telle raison », ne suivez pas son conseil. Enfin, je veux dire, si c'est quelque chose qu'on vous impose, ça n'a un intérêt relatif, à mon avis. Je peux me tromper, on peut avoir des révélations, mais je pense que ça doit être une démarche personnelle.
Et j'avais une question aussi qui était plus sur alors, le process de prise d'études. Et après, il y a aussi toute la partie confrontation avec la réalité du métier, de trouver un métier, etc. Pour préparer cette phase-là, est-ce que vous, ou même dans les entretiens que vous avez eus, vous avez des conseils pour préparer aussi cet après et être sûr de, après peut-être 2 ou 3 ans d'études, de ne pas s'être trompé en tout cas sur ce qui allait se passer après?
Je ne me suis pas trouvée exactement dans cette configuration-là. C'est-à-dire que quand moi, j'ai repris mes études pour faire ma thèse, je ne l'ai pas repris en me disant « je changerai de métier après ». C'est pourtant ce qui s'est passé. Je pense que quand on reprend ses études, on est vraiment dedans. Si quelqu'un a un objectif très défini de reprendre ses études parce qu'il veut changer tel métier, il sait quoi faire, je pense que ça se passera assez facilement. D'autant que la reprise d'études, c'est long. Et donc, ça nous donne le temps de mûrir. Et ça nous donne le temps de préparer la suite. Donc, je pense qu'il ne faut pas s'angoisser par rapport à ça. Parce que petit à petit, en fait, on va pénétrer dans une autre réalité. Et le fait de reprendre des études donc, nous donne un niveau de compétence supérieur à ce qu'on avait. Et donc, va nous ouvrir des portes auxquelles on ne pensait pas. Moi, le travail que j'occupe actuellement et qui m'enchante, est un travail qui n'existait pas avant que je le prenne, puisqu'il a été créé, je suis la première personne qui est titulaire de ce poste, et je n'avais pas pensé à l'avance que j'occuperais ce poste-là. Mais par contre, il est clair qu'avoir fait cette thèse a élargi mon domaine de compétences, l'a augmenté, a élargi mon réseau, et c'est d'ailleurs de façon très fortuite que le travail que j'occupe m'a été proposé. Enfin, c'est tout un enchaînement de circonstances. Donc, je pense qu'il faut faire confiance à la vie sur ce que peut nous apporter cette démarche. Mais déjà, la démarche en soi, elle est motivante et elle apporte. Et puis, c'est gratifiant de se dire, eh ben, j'y arrive, je suis en train d'y arriver. Et sans oublier qu'il peut y avoir des difficultés. Hein. Je ne suis pas en train de vous dire, reprendre des études, c'est tout le temps rose. Mais par contre, ce que je souhaite à tout le monde, c'est autant de plaisir que moi, j'y ai pris. Et d'où l'utilité de vraiment choisir ce qui vous plaît. Reprenez des études sur des trucs qui vous emballent.
Non, mais ce que j'entends effectivement, c'est qu'il y a une partie des réponses et une partie des choses qui se créent pendant.
Tout à fait.
En osant.
Oui, c'est exactement. C'est un processus continu et qui révèle son lot de surprises plutôt bonnes au fur et à mesure. Mais il faut anticiper si on a des... on recherche un métier... ou un poste très précis à l'issue de ses études, je dirais qu'il faut anticiper quelques mois avant la fin de ses études, quelles qu'elles soient. Commencer à se renseigner sur les entreprises qui proposent le type de poste qui vous intéresse, sur les lieux où ça pourrait être plus adapté de postuler. Il ne faut pas s'y prendre au dernier moment. Mais comme beaucoup de gens en reprise d'études ont souvent une activité en même temps, de toute façon, tout ça, il va y avoir une sorte de tuilage, en fait, entre le métier qu'on quitte, le métier vers lequel on va, et les études sont une sorte de voie de communication privilégiée.
Et sur les inspirations, donc, du coup, il y a votre livre qui s'appelle « Reprendre des études qu'à l'aventure ». Est-ce que vous parliez tout à l'heure de coach, est-ce qu'il y a d'autres sources d'inspiration? Alors, ça peut être des personnes, des ouvrages, des podcasts, peu importe, mais que vous pourriez conseiller sur ce sujet précis de reprise d'études?
Alors, sur le sujet précis, non, parce que justement, ma reprise d'études, elle date, puisqu'elle s'est faite entre 2011 et 2016, donc ça fait déjà 7 ans. Donc, je n'ai pas suffisamment suivi ce sujet-là. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que je pense qu'effectivement, les podcasts, comme celui que vous réalisez, c'est un super médium pour s'informer et qui a aussi beaucoup de... en particulier sur les changements de vie. Et que écouter quelqu'un, voir quelqu'un expliquer son parcours et comment il y est arrivé, écouter des parcours de vie, ça me semble formidable. Bon, un conseil très pratique, ça pourrait être aussi d'examiner attentivement les différents sites des universités et grandes écoles qui proposent, grandes écoles ou instituts de formation, qui proposent des formations, se faire presque un comparatif, regarder les atouts et les inconvénients. Regardez la question des prix des formations, regardez la question du temps, regardez la réputation aussi.
Oui, appeler peut-être des anciens élèves aussi.
Appeler aussi des anciens élèves avec les réseaux d'alumni, donc d'anciens étudiants. Se renseigner, oui.
Et on arrive à la fin de cet entretien. J'ai une dernière question rituelle pour vous qui est: quel est votre conseil principal pour les gens qui ont envie de basculer ?
C'est faire confiance à son intuition. Penser qu'on est soi-même la personne la plus à même de déterminer ce qui est bon pour soi pour la suite. Et penser que si on a cette envie-là de reprise d'études sur tel ou tel sujet, il faut la suivre. Si on pense que c'est bon, on arrive à sentir ce qui est bon pour soi, ce qui n'est pas. Parfois même corporellement, on arrive à sentir les choses. Donc vraiment, faire confiance à son intuition. Bien se documenter, faire confiance à son intuition. Et se dire qu'on n'a qu'une vie, il faut y aller.
Super, on restera là-dessus. Pour les gens qui veulent peut-être en savoir plus sur vous, vous contacter, est-ce que vous avez un mail, un site
La façon la plus simple, c'est de me joindre sur LinkedIn.
Ok, Isabelle Delorme sur LinkedIn.
Voilà, Sciences Po, on me retrouve très facilement.
Super.
Avec plaisir.
Merci beaucoup, voilà. Isabelle.
Merci à vous, Sarah.
Pour retrouver toutes les références et les ouvrages abordés dans ce podcast, rendez-vous dans la description du podcast ou sur le compte Instagram La Bascule Podcast. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser 5 petites étoiles ou un mot doux sur Apple Podcast. À bientôt pour de nouveaux épisodes de La Bascule.